vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour la reprise donc de la classe de la Bible. Nous prions que le Seigneur puisse parler au cœur de nos enfants semaine après semaine, et en plus de ceux qu'ils reçoivent à la maison, que ce qui est semé puisse porter du fruit dans leur cœur. Frères et sœurs, je vais vous inviter à ouvrir la parole de notre Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors je vais donc revenir avec vous sur cette épître de Paul aux Éphésiens que j'avais commencé il y a quelque temps, et puis pendant la période estivale, on avait fait un saut dans l'Ancien Testament et nous avons vu ensemble quelques événements de la vie de David. Et donc, j'avais dit que j'allais attendre la rentrée pour reprendre cette deuxième partie de l'épître de Paul aux Éphésiens, où il parle des applications de ce qu'il a pu dire, enseigner dans les trois premiers chapitres. Et donc, dans les chapitres 4 à 6, donc ce sont voir ce que va impliquer le fait de savoir que nous sommes enfants de Dieu, ce qui est attendu aussi de nous qui sommes sur la terre. Si Dieu nous a sauvés, s'il nous a laissés là, il y a bien une raison. Et donc, dans ces trois premiers chapitres, l'apôtre Paul parle de notre vocation. Et dans le chapitre 4 que nous allons lire, la première des choses qu'il dit, au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Alors, quelle est la vocation ou l'appel du chrétien? Comment avoir une conduite dans la vie de tous les jours qui soit digne de cette vocation? Alors, donc, comme je disais, cette vocation, elle est décrite dans ces trois premiers chapitres. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, je vous exhorte donc, il est dit, de marcher d'une manière digne de la vocation, parce que c'est la conséquence de ce qui est dit dans ces trois premiers chapitres. Donc, cette vocation, il dit qu'au fait, que Dieu a appelé les chrétiens, ceux qui ont confessé le nom de Jésus-Christ, qu'il les avait élus avant même la fondation du monde, qu'ils sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, que si Dieu les a élus, les a sauvés, c'est dans un but, c'est pour qu'ils soient saints et irréprochables devant lui. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc c'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés pour que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et il nous a sauvés, nous a donné une pleine espérance, il est dit également. Donc, dans ce passage, il dit, lorsque la personne a entendu l'évangile, la personne a mis sa foi dans ce qu'elle a entendu concernant Jésus-Christ, elle reçoit le Saint-Esprit de Dieu, qui est un gage de son héritage. Donc, là encore, le Seigneur a fait de nous ses héritiers. Dans le chapitre 2, l'apôtre Paul explique qu'il n'y a pas de sujet à se glorifier du fait d'être chrétien. On est sauvé seulement par grâce. Et il rappelle d'où nous étions, d'où le Seigneur nous a pris. Et il a pris les juifs et les non-juifs, donc les juifs, le peuple de Dieu et les païens, et il les a mis ensemble pour former l'Église. Et donc, le Seigneur, l'apôtre Paul, il dit que le Seigneur nous a rapprochés les uns les autres et pour former un seul corps, un homme nouveau en Jésus-Christ. Et donc, cette deuxième chose, c'est que si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous formions l'Église, que nous soyons membres de son corps et que nous puissions l'honorer, le glorifier et être, comme il dit, ce temple saint, cette maison de Dieu. Il dit, donc vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc Dieu nous a sauvés pour faire de nous son peuple et une habitation de Dieu, c'est ce qu'il est dit. Alors tout cela, c'était, il dit au chapitre 3 que tout cela, c'était un mystère. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas eu un éclaircissement par rapport à ces vérités que l'apôtre Paul et les apôtres ont reçues par révélation. Et donc, et c'est pour ça qu'il dit que l'Église est fondée sur les apôtres, ont pour fondement les apôtres et les prophètes. Donc c'est eux que le Dieu a choisi pour enseigner tout cela. Et il dit même que les dominations, les autorités, donc les êtres angéliques regardent, voient, et ils voient à travers l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il dit au chapitre 3, verset 10. Alors l'apôtre Paul, il prie que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre ce qui s'attache à notre appel, ce qui est, il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il prie aussi au chapitre 3 pour que Christ habite en nous, que nous puissions être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur par son esprit et que nous soyons remplis, il dit, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, donc tout ça, c'est extraordinaire. Et là, on arrive au chapitre 4, où l'apôtre Paul va maintenant donner des applications de tout ce qu'il vient de dire, et tout ce qui sera dit par la suite aura des... il y a une résonance entre ce qui sera dit et ce qui a été dit. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble le chapitre 4. Nous allons lire dans les versets 1 à 16. Dans ce chapitre 4, l'apôtre Paul parle de ces deux choses dans lesquelles nous avons été appelés. Alors, en tant que chrétien, il est dit appelé à être saint et irréprochable devant le Seigneur. Et donc, il va parler de la sainteté, comment on doit avoir une vie sainte. Et cela, c'est à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 4. Il va dire de ne pas vivre comme ceux du monde. Et il va, puisque Dieu a fait de nous son Église, le temple, son temple, et il nous a rapprochés, il nous a unis. Donc, il parle de l'unité. Et là, dans ces versets 1 à 16, c'est de cela qu'il va déjà souligner l'unité de l'Église et la responsabilité donc des chrétiens de conserver cette unité. Voilà. Donc, c'est là le premier thème donc de ce message. Donc, en tant que vocation du chrétien, si Dieu nous a sauvés, s'il a fait de nous membres de son corps, il attend de nous que nous conservions cette unité, l'unité de l'Église. Alors, j'aimerais vous inviter à la lecture. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà. Donc là, nous nous arrêtons pour la lecture, pour cette première lecture. Donc, l'apôtre Paul nous dit que la vocation du chrétien, si Dieu l'a sauvé, c'est pour qu'il ait une vie sainte, une conduite sainte et irréprochable devant Dieu. C'est aussi vivre dans l'unité au sein du corps de Christ. Donc, pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu à toutes les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Donc là, il parle des êtres angéliques, déchus ou pas. Donc, les êtres angéliques se tiennent là au premier rang pour observer les chrétiens. Les anges déchus vont saisir toutes les occasions que nous leur donnons pour nous accuser devant Dieu. Et l'exemple que nous avons, c'est l'exemple de Job, qui était un homme, il est dit, intègre et droit, et qui craignait Dieu et se détournait du mal. Et malgré cela, Satan, le texte dit, va se présenter et va dire à Dieu, est-ce que tu as vu mon serviteur Job, qui est un homme intègre et droit? Et Satan va dire, voilà, je crois que s'il est comme ça, c'est parce que tu l'as béni, etc. Et c'est un exemple pour nous montrer que il y a la vie sur terre, mais il y a aussi cette vie céleste qui nous dépasse. Il y a des êtres angéliques qui sont là, et Dieu veut leur démontre toute sa sagesse à travers nous. Et c'est vraiment extraordinaire. Et Dieu, dans sa grâce, veut utiliser des êtres qui ne sont que poussière pour manifester toute sa grandeur, toute sa puissance à tous les autres êtres qu'il a pu créer, les êtres angéliques, ceux qui sont restés fidèles, mais aussi ceux qui se sont détournés de lui pour suivre Satan. Et Dieu leur démontre toute sa puissance à travers nous. Donc, tout cela pour dire que il nous confie une grande responsabilité. Si Dieu nous a sauvés, c'est pas juste pour que nous disions, voilà, on est chrétien et puis on attend que Jésus-Christ revienne. S'il nous a sauvés, c'est parce que il a voulu démontrer toute sa puissance à travers toute sa création, montrer que dans sa grâce, il peut sauver des personnes qui étaient perdues et en faire ses héritiers, et à travers nous, montrer aussi comment il peut manifester ses différents attributs qui le caractérisent. Alors, comment donc pouvons-nous, dans la vie de tous les jours, avoir cette vie sainte et irréprochable? Donc Dieu, il nous a sauvés pour cela, pour que nous célébrions sa gloire. Donc comment concrètement nous pouvons vivre comme le Seigneur attend de nous? Comment maintenir dans l'église locale l'unité voulue par Dieu et réaliser cette unité qui a été réalisée par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix? Donc la réponse se trouve dans dans ce chapitre 4 et dans la première partie que nous avons lue, dans les versets 1 à 16, l'apôtre Paul dit que pour maintenir cette unité que le Seigneur veut, il faut s'efforcer de le conserver. Et c'est ce qu'il dit au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour cette unité. Il a voulu, il a tout fait pour que l'Église soit créée. Et il prie que ses disciples restent unis. On peut lire l'Évangile de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdotale. Je peux lire à partir du verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, donc le Seigneur Jésus-Christ, il prie pour les disciples qui étaient là avec lui et il dit, c'est pas seulement pour eux que je prie, il prie pour tous ceux qui vont croire en leurs paroles. Les paroles sont là et tous ceux qui croient en ces paroles, donc ce sont ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, qui sont chrétiens, selon la parole de Dieu. Et il dit, prie pour leur unité, pour que le monde croit que Dieu a envoyé Jésus-Christ et que le monde croit en Jésus-Christ. Donc, par l'unité, par notre unité, nous rendons témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé pour qu'il soit sauvé. Donc, c'est capital, maintenir l'unité de l'Église. Je dirais que si il y a, bon, je ne vais pas dire une chose, mais si parmi les choses importantes, il y a celle-là qu'on doit retenir en tant que chrétien. Je suis chrétien, le Seigneur m'a placé dans cette église. La priorité pour moi, c'est de tout faire pour maintenir l'unité entre nous. Voilà. Et parce que c'est capital pour Dieu. Et c'est important pour le témoignage vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur. Et on le sait très bien que Satan, il va tout faire pour casser cette unité. Il va tout faire pour que le témoignage de l'Église ne soit pas à la gloire de Dieu, et justement pour empêcher aux hommes de venir à Dieu. Alors cette unité est réalisée par la croix. Christ, comme il est dit au chapitre 2, a rapproché juifs et non-juifs pour dire que, voilà, tous les hommes de toute nation, de toute langue, etc., Dieu les a pris, les a sauvés pour former un seul peuple, qu'on soit juif ou pas. Donc, le Seigneur l'a déjà fait, c'est déjà une réalité. Après, il faut vivre cette réalité concrètement. Et donc, il a créer l'Église. Dans Jean chapitre 11, lorsqu'on a arrêté notre Seigneur Jésus-Christ, versets 50 à 52, il y a Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi, il est dit, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Donc, dans Jean chapitre 11, il y avait déjà cela, que même Caïphe, le souverain sacrificateur, a prophétisé que un seul devait mourir pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, a réalisé cela. Donc, cette unité, le Seigneur l'a faite. Il y a un autre point de, où il est souligné là, par le baptême donc du Saint-Esprit, tout croyant est immergé en Christ et rattaché au corps qui est uni à la tête comme à tous les autres membres. Et donc, il dit, il y a non seulement un seul corps, il y a aussi un seul esprit, vous aussi, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, il y a le même esprit, nous avons reçu le même esprit. Il y a, il est dit, une seule espérance par notre vocation. Lorsqu'on, en croyant en Jésus, nous avons tous cette même espérance de du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et d'être semblable à lui, il dit, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Donc, l'espérance aussi de la vie éternelle. Il dit qu'il y a un seul Seigneur. Donc, lorsque nous nous réunissons, c'est parce que nous adorons le même, le seul Seigneur, le seul Dieu, et celui qui a donné sa vie aussi pour nous, qui a manifesté cet amour envers nous, le Dieu le Père, et celui qui a donné sa vie pour nous. Il dit aussi qu'il y a une seule foi. Et la foi dont il s'agit, c'est l'ensemble de la doctrine qui est laissée là pour nous. C'est pas juste la foi de dire « oui, je crois en Jésus », mais c'est tout l'enseignement sur lequel est basée cette foi. Donc, c'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et dans Jude, au verset 3, Jude, il exhorte les chrétiens, il dit « à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes ». Donc, cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, nous l'avons dans la parole de notre Dieu. Il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Et là, le baptême dont il s'agit, je crois que c'est le baptême d'eau, par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que tous les disciples, les chrétiens, lorsqu'ils croyaient en Jésus-Christ, ils étaient baptisés. Et le baptême que le Seigneur Jésus a validé, c'était le baptême de Jean. C'était un baptême par immersion quand il se faisait dans le Jourdain. Et l'eunuque éthiopien, lorsqu'il a vu d'eau, il dit, voilà, il y a assez d'eau, pourquoi je ne vais pas me faire baptiser? Donc, et là encore, c'est très important, c'est que pour qu'il y ait cette unité, que nous ayons connu la même expérience. Non seulement au niveau de la conversion, qui traduit notre mort, notre ensevelissement et notre résurrection, et cela se voit aussi dans le baptême, baptême d'eau, qui symbolise cette immersion et cette résurrection. Donc, après, il dit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, donc nous croyons que nous sommes ses enfants, Dieu le Père. Donc voilà, quelle est la base de cette unité? Cette base-là, elle est là et personne ne peut l'enlever. Après, c'est qu'au niveau de l'Église, chacun doit dire, voilà, est-ce que je me reconnais sur cette base-là? Et c'est lorsqu'on devient membre de l'Église, on a une confession de foi, voilà ce que nous croyons. Voilà, est-ce que il faut que tu crois en cela? Si tu ne crois pas en la même chose que nous, c'est pas possible. Il peut pas y avoir d'unité. Et là, lorsque le dimanche nous prenons la Sainte Cène, nous manifestons aussi cette unité en prenant le pain et la coupe. Et lorsque nous le faisons symboliquement, mais c'est ce que ça traduit, lorsque nous prenons ensemble le pain et la coupe, c'est pour montrer aussi cette unité. C'est pas chacun effectivement qui le prend quand il veut, on le prend ensemble, la coupe aussi. Et donc par ces moyens là, nous manifestons l'unité qu'il y a entre nous. Nous manifestons cette unité aussi parce que, comme je l'ai dit, par notre baptême. Et donc et ça, je l'insiste, je le dis, hein, parce que je l'ai déjà souligné, c'est le baptême par immersion. Si on n'est pas baptisé par immersion et que malgré tout c'est pas grave, on fait comme on veut, il peut pas y avoir d'unité. Il peut pas y avoir d'unité parce que c'est pas comme cela que la Bible le dit. Donc posons-nous cette question, est-ce que vraiment je veux vivre cette unité? Bien sûr que oui. si je suis chrétien réellement? Oui, parce que c'est ce que Dieu veut. Donc, est-ce que je rentre dans les clous? Est-ce que ma vie, elle est conforme à ce que le Seigneur dit dans sa parole? Maintenant, bien sûr, pour notre grande majorité, nous rentrons dans cela. Et je dirais que c'est la partie peut-être la plus simple. Parce que ce qui est compliqué, c'est de vivre ensemble. Ce qui est compliqué, c'est de manifester au quotidien cette unité. Et cela, l'apôtre Paul nous donne les éléments qui vont nous aider à conserver cette unité. Il dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc, quand il parle de marcher, c'est notre conduite, notre manière de vivre dans notre vie de tous les jours et dans la vie aussi de l'Église. Donc, il faut qu'il y ait cet équilibre entre la conduite du croyant et sa position en Christ. Il faut qu'il manifeste dans sa vie d'Église cette réalité intérieure qu'il est un enfant de Dieu. Et pour cela, l'apôtre Paul souligne des qualités que chacun doit rechercher. Il dit marcher d'une manière digne, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Donc vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Voilà les éléments essentiels qui vont nous aider à vivre cette unité. L'humilité, ne pas chercher à être au-dessus des autres. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a rapidement expliqué à ses disciples cela. Chacun voulait qui est le plus grand. Et le Seigneur dit, non, prenez un enfant, il prend un enfant, il le dit, mais vous devez être comme l'un de ses enfants. Si vous voulez être le plus grand, mais soyez d'abord comme le serviteur de tous, comme moi-même, qui suis le maître, je vous lave les pieds. Donc, prendre la place du serviteur. Alors, c'est la première des choses pour pouvoir vivre cette unité et conserver cette unité, c'est faire preuve d'humilité. Le Seigneur, il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, la première chose pour nous, c'est de dire non à cet orgueil qui nous caractérise et de faire preuve d'humilité les uns vis-à-vis des autres. La douceur aussi, qui est le fruit de l'humilité, et donc qui est le fruit de l'esprit, la patience, etc. Alors, mais tout cela, on va le voir par la suite, ça sera la conséquence de progrès spirituel. Il dit que, par la suite, il dit pour le perfectionnement des saints, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc là, il parle de la maturité, de la croissance spirituelle des chrétiens. Donc, on doit tendre, on doit progresser, et le progrès spirituel se traduit par ces choses comme l'humilité, la douceur, la patience. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nous, dans Galates. C'est ce qu'il dit, Galates chapitre 5, versets 22 et 23, qui parle donc du fruit de l'esprit. Donc, pour maintenir donc cette unité, pour conserver cette unité, le chrétien doit grandir dans sa foi. Le chrétien doit grandir dans la connaissance de Dieu. Et lorsqu'on ne fait pas preuve d'humilité, de douceur, de maîtrise de soi, etc., c'est signe d'une immaturité spirituelle. C'est signe clair, net, évident qu'on est encore des enfants, un peu comme les Corinthiens, des personnes charnelles. Et c'est ça qui mine nos églises. C'est ça qui casse tout, parce que au lieu de regarder l'autre comme étant plus grand que soi, on veut avant tout les premiers. On veut avant tout être parmi les premiers. On veut être le chef. Quand on voit souvent dans les églises, le problème c'est parfois au niveau des responsables, parce que un veut être au-dessus de l'autre. Non, il dit soyez faites preuve d'humilité, ne regardez pas l'autre comme étant plus petit que vous, mais bien au contraire, soyez le serviteur de tous. Et donc, pour pouvoir conserver cette unité, donc il souligne donc toutes les qualités qu'il faut que nous ayons et que nous devons rechercher. Et ces qualités, nous les aurons que si nous progressions spirituellement dans la connaissance de Dieu, si nous progressions dans notre foi. Et pour cela, le texte nous dit que Dieu a, nous pouvons le faire si nous nous mettons au service des autres, et si on met au service de l'Église les dons que Dieu nous a donnés. Ce qui dit au verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc, il souligne clairement que à chacun de nous, il ne parle pas de quelques-uns. Il dit « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc, Dieu, il fait des dons aux hommes. Il nous a donné à tous des dons pour que nous le mettions au service des autres. Et lorsque nous cherchons à mettre au service des autres les dons que Dieu nous a donnés, cela permet aussi de conserver l'unité. Puisque on est là, on n'est pas oisif, et on cherche à aimer, à aider, parce qu'à travers ces dons, on manifeste l'amour que nous avons pour les autres. Et donc, c'est déjà une première chose, c'est-à-dire que dans l'Église, une Église où il y a l'unité, où donc les gens font preuve de maturité, c'est une Église où chacun cherche à mettre au service des autres les dons qu'ils ont reçus. Mais l'apôtre Paul ajoute aussi que pour aider l'Église à grandir, Dieu a donné à l'Église des hommes pour son édification. Et là, il parle de personnes que Dieu donne à l'Église. Pour cela, il parle des apôtres, des prophètes, qui étaient là pour le fondement de l'Église. Il parle des évangélistes et des pasteurs et docteurs. Donc, les évangélistes sont ceux qui donc ont cette capacité d'annoncer l'Évangile et permettre aux gens de saisir par la foi et de se tourner vers Jésus-Christ, mais aussi annoncer l'Évangile comme tout prédicateur pour aussi les chrétiens. Et puis le travail du pasteur ou des anciens, c'est de paître le troupeau, comme il est dit dans d'autres passages. Et donc il faut bien comprendre aussi quel est le rôle de chacun dans l'Église. Si Dieu a donné à l'Église un pasteur, et si Dieu a donné à l'Église des anciens, c'est pour aider l'Église à grandir, à progresser spirituellement, pour pouvoir ensemble conserver l'unité. Et que chacun, il est dit par la suite, chacun puisse exercer son don et lui-même grandir et après servir le Seigneur pour accomplir ce à quoi il a été appelé. Alors, il y a, dans les versets 13 et suivants, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Donc voilà, on voit vraiment cette progression. Pourquoi Dieu il a donné à l'Église ces personnes avec ces dons, c'est pour la croissance de l'Église, la croissance spirituelle de l'Église. Alors il y a plusieurs résultats donc qu'on voit dans ces versets 13 à 16. C'est lorsque, en tant que chrétiens, nous progressons spirituellement, et il dit qu'il parle de l'unité de la foi. Donc il avait déjà commencé à parler de l'unité et il revient dessus pour montrer que tous les dons que le Seigneur donne, servent aussi à cela, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et la croissance spirituelle. Alors, ça va nous permettre d'avoir de bons fondements sur le plan doctrinal, des fondements solides qui vont nous permettre de ne pas être, il est dit, ballottés à droite et à gauche par tout vent de doctrine. Et combien on est dans une époque où c'est pas comme avant, il fallait que les prédicateurs ils se déplaçaient et puis dans la parole de Dieu il nous est mise en garde contre ces prédicateurs, ces faux docteurs. Maintenant, on va sur Internet et puis on a accès direct. Hein, voilà. Et donc, si en tant que chrétien, on n'a pas de base solide, il est très facile de se laisser tromper par quel autre enseignement qui soit pas conforme à la parole de Dieu. Donc, et en ça que la vie de l'Église est importante et pourquoi Dieu nous a placés dans l'Église, c'est pas qu'on vive seul dans notre coin ou qu'on vive et qu'on aille à droite ou à gauche, mais qu'on soit dans l'Église et qu'on vive l'Église pour être des chrétiens solides spirituellement. Et aussi, ça nous permet d'annoncer avec amour la vérité à ceux qui ne connaissent pas ou qui sont dans l'erreur. Donc, si chacun peut dire qu'il a sa vérité, mais il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité, c'est la parole de Dieu. Après, c'est comment nous comprenons, et on peut échanger et dire avec douceur les choses. Je partageais le mercredi soir avec nos frères et sœurs que dans la semaine, il y a des personnes, des témoins de Jéhovah qui sont passées. Oui, j'ai pris le temps d'échanger avec elle pour voir quelques points dans la parole de Dieu où on n'est pas d'accord et ce que dit la parole de Dieu, Bible en main. Après, il faut le faire avec douceur et puis après Dieu va éclairer chacun. Hein, voilà, on cherche pas à forcer quiconque. Voilà. Et si la personne veut rester dans sa voie, ben qu'elle reste dans sa voie. En tout cas, si on cherche le Seigneur, il se laisse trouver. Hein. Donc que le Seigneur nous aide, que nous comprenons que ce qui est important, c'est de maintenir, conserver cette unité que Dieu a voulu, que Dieu a faite. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, si je ne me trompe pas. Donc l'Église, c'est très important, c'est capital. Et on parlait des attributs de Dieu, de sa sainteté, de son amour et de sa justice ce matin. L'un ne va pas sans l'autre. Et Dieu nous a appelés à être saints et irréprochables. Et il a créé l'Église et il nous demande de ne rien faire qui aille briser, casser cette unité, et que si nous le faisons, attention à nous. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. » Et c'est ce que vous êtes. Voyez? On est dans le Nouveau Testament, là. Hein? Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, maintenir, conserver l'unité de l'Église, que Dieu nous garde, ne pas être cet instrument que le diable va utiliser pour casser, briser cette unité. Donc, chaque chrétien doit avoir à cœur de tout faire en s'oubliant lui-même, pour dire, ce qui est important pour moi, c'est maintenir cette unité que Dieu a voulu, que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour quiconque, mais que je sois un instrument que Dieu va utiliser pour l'édification de l'Église, pour le bien de l'Église, pour sa croissance. Donc, faisons attention. Si ces paroles ne nous font pas trembler, alors posons-nous réellement des questions hein, par rapport à notre foi, mais l'amour que nous avons pour Dieu doit nous faire aimer son Église et tout faire pour maintenir cette unité. Donc que le Seigneur nous garde en cela, qu'il nous protège aussi, parce qu'on sait que l'ennemi, il est là, il va tout faire pour briser cette unité. Mais au nom de Jésus, que nous puissions chercher à grandir dans notre foi, dans la connaissance de notre Seigneur, pour être suffisamment solide spirituellement, pour pouvoir faire face à toutes ces attaques et tout faire pour maintenir l'unité parmi nous.